Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. En 1957, une boîte de cigares piégée dans la préfecture du Bas-Rhin et c'est tout un fragile équilibre politique qui va être mis en péril. Nous sommes en 2006, quasiment 20 ans après la chute du mur de Berlin. Le temps de la guerre froide semble loin, celui des crimes du communisme aussi. Pourtant, entre règlement de compte et recherche de justice, de la Pologne à la Bulgarie, l'ouverture des dossiers des anciens informateurs ou agents des services secrets provoque toujours des scandales publics. Ceux qui ont servi les rouages du système communiste sont-ils victimes ou responsables? Y a-t-il prescription? Cette année-là, un procès ouvert à Prague contre deux agents des services secrets tchécoslovaques a de nouveau soulevé toutes ces questions. Pourrait-on condamner deux octogénaires malades à 15 ans d'emprisonnement pour un crime commandé par la STB, la police politique tchécoslovaque et le KGB? Milan Michel et Stanislas Tom sont en tout cas les deux seuls à devoir répondre pour un acte impliquant deux autres agents décédés depuis, mais surtout des hauts responsables d'État jamais inquiétés. Cette affaire, elle remonte à l'année 1957. Une autre époque qui avait ses propres règles non écrites. La guerre froide était surtout une guerre des services et du terrorisme des deux côtés du mur. La tension diplomatique entre les deux camps a atteint des sommets en cette année 1957. Les Russes ont lancé le premier satellite artificiel dans l'orbite de la Terre, Sputnik. Un événement que plusieurs journaux occidentaux vont comparer à un Pearl Harbor technologique. La course à l'espace vient de débuter. À l'Ouest, on crée la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA, ancêtre de l'Union Européenne, une alliance économique qui allait renforcer l'unité politique de l'Europe occidentale et surtout l'alliance franco-allemande. À l'Est, le KGB avait donc mis en œuvre une série d'actions pour déstabiliser ce projet. Dès le mois d'octobre 1956, des lettres anonymes avec des propos nazis avaient inondé de menaces les préfectures de l'Est de la France. C'était le moment où, à la Chambre des députés, on débattait de la question de l'intégration de l'Allemagne dans la future CECA. Pouvait-on vraiment lui faire confiance? Le moment était donc opportun pour brandir la menace nazie et essayer de faire capoter la signature du futur traité de Rome. Tous ces efforts du KGB se révélèrent pourtant vains. Mais Moscou ne baissa pas les bras. Faire croire à une résurgence du nazisme était aussi le motif de l'attentat imaginé contre André-Marie Trémaux, le préfet du Bas-Rhin. Ce 14 mai 1957, il reçoit un certain nombre de personnalités à l'issue de la session du CECA à Strasbourg. Parmi les hommes politiques présents, des anciens présidents du Conseil, un ancien ministre, ainsi qu'une vingtaine de personnalités de la Communauté Européenne et du Conseil Général du Bas-Rhin. Mais le stock de cigares du préfet ce soir-là était suffisant pour tous ses invités. Alors la boîte de ces fameux Havane qui venait d'arriver le jour même par la poste resta intacte, dans son tiroir à tabac. Trois jours plus tard, vendredi 17 mai, le préfet Trémaux reçoit la médaille du mérite agricole. Vers midi, la réunion de l'Assemblée Générale d'Agriculture du Bas-Rhin terminée, un certain nombre de notables se rassemblent dans le hall d'entrée de la préfecture dans l'attente de la traditionnelle photo de famille. Parmi eux, par exemple, Pierre Pfimelin, le président du Conseil Général du Bas-Rhin. Joviale et avenante comme à son habitude, Hélène Trémaux, la femme du préfet, salue ses connaissances parmi les invités. Une quinzaine d'entre eux sont conviés au déjeuner qui va suivre. En attendant l'arrivée du photographe, elle remonte donc quelques instants dans ses appartements, juste pour s'assurer que rien ne manque pour la réception. Notamment les cigares que l'on va offrir à la fin du repas. L'occasion ou jamais d'entamer cette boîte, encore fermée. Elle glisse la lame de son coupe-papier pour soulever le couvercle. Et là, une explosion puissante secoue la préfecture et brise toutes les vitres. Hélène Trémaux meurt instantanément, plongeant Strasbourg dans le deuil et le désarroi. Diligentée directement par le ministère de l'Intérieur, l'enquête a immédiatement démarré. Sa direction est confiée au patron de la DST lui-même. L'affaire est classée urgente, sensible, d'ordre politique et international. Alors vite, on enquête. La piste algérienne du FLN, rapidement écartée, c'est donc la piste des néo-nazis allemands qui semble être la bonne. Quelques jours avant l'attentat, des collègues de M. Trémaux, tout comme les élus des trois départements d'Alsace et de Moselle, avaient reçu des lettres de menaces signées « Kampfverband für Unanhängiges Deutschland ». Oppresseurs français, nous avons déjà trop longtemps supporté de vous voir vous pavaner avec arrogance en Elsace-Lothringen, territoire que vous avez imprudemment usurpé. Nos agents vivent parmi vous et sont parfaitement instruits de tous vos crimes. Vous voilà donc avertis, et chacun de vos forfaits sera désormais suivi d'une vengeance impitoyable. L'attentat de Strasbourg avait atteint ses objectifs. Les sentiments anti-allemands envahissent la presse, remettant en question la confiance en l'Allemagne de l'Ouest en tant que partenaire au sein de l'OTAN et de la CECA. Encouragé par ce succès, en 1958-1959, le service D, chargé de la désinformation au sein du KGB, a continué à organiser des actes pro-nazis en Allemagne de l'Ouest et en Europe. À cette époque, le monde entier a été indigné par la résurgence néo-nazie, et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1968, que la vérité éclate au grand jour. Parmi une foule de révélations étonnantes, Ladislav Bittmann, ex-directeur adjoint du département de désinformation des services secrets tchécoslovaques, passé à l'Ouest, déclare que l'attentat a bien été organisé par le STB en collaboration avec le KGB. Il faudra attendre 1996 pour qu'une enquête soit ouverte par l'Office d'investigation et de documentation des crimes de communisme en Tchéquie. Elle confirme les faits et en 2006 réussit à traduire en justice pour meurtre 2 des 4 agents tchèques impliqués dans l'affaire. Le procès a finalement été suspendu en raison de l'état de santé des accusés. Il n'a jamais repris. Mais le souvenir vint troubler à nouveau les esprits, comme pour rappeler que Strasbourg n'est jamais à l'abri d'actes terroristes, s'attaquant à son rôle de capitale de l'Europe. C'était Les Grands Crimes de l'Est avec l'affaire des cigares piégés, un texte écrit par Donesta Lavergne. Dans 15 jours, je vous raconte la vie chaotique d'André Lodz, son expulsion de France, son retour et l'affaire qui va mener à sa perte en Haute-Saône. Si vous aimez l'histoire, je vous invite aussi à découvrir notre autre podcast, Les Grandes Histoires de l'Est. Je vous raconte des batailles qui ont marqué nos régions. Les Grandes Histoires de l'Est, Les Grands Crimes de l'Est, 2 podcasts à retrouver sur toutes les plateformes et évidemment gratuitement. À dans 2 semaines.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.